Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En ce mois d'avril, passer des ténèbres ou de la barbarie à la lumière, à la beauté et à la poésie. Avec des textes qui se sont imposés à moi, comme Gulliver, vous savez, le fameux Gulliver enchaîné de Philippe Guibert sur le déclin du chef politique en France, comme le deuxième ouvrage très important, l'ouvrage « L'humain au centre du monde », sous la direction de Daniel Salvatore Schiffer et la participation de 33 auteurs remarquables. Et puis des romans noirs qui se déroulent en Écosse, dans les hautes terres, les Highlands, avec Peter May, le fameux Peter May, et M.C. Beaton, et son personnage incontournable, le policier Hamish Macbeth, que je découvre et que je vais vous faire découvrir. Pour arriver à un livre fabuleux, Le dernier flirt d'Henri Matisse, du frère dominicain Philippe Verdun, dans lequel, un roman, dans lequel il évoque Sœur Jacques-Marie, une infirmière religieuse pétulante qui redonna le goût de vivre et de peindre à Matisse et lui inspira son chef-d'œuvre final, La chapelle du rosaire de Vence. Et puis de la poésie avec le grand François Chaigne, avec Suite orphique de François Chaigne, une pure merveille qui va droit au cœur et à l'esprit. Et puis, si j'ai encore du temps, mais je pense, quelques bons romans, L'armoire de vie au pluriel de Anne Brochet, et puis Va où le vent te berce de Sophie Talmen. Voilà. Donc nous commençons par le premier livre, Gulliver enchaîné, de Philippe Guibert, qui est paru au Cerf. Ou le déclin du chef politique en France, car on doit bien se rendre compte d'une chose, il nous faut un chef. Mais quel chef ? Doit-il être proche, en majesté, sauveur visionnaire ou manager terre à terre ? Nous le voyons bien, l'autorité présidentielle s'efface, la verticalité s'affaisse, les grands destins s'effondrent depuis Charles de Gaulle, faut bien le dire. Comment en est-on arrivé là ? Le livre documentaire enquête sur une éclipse française. C'est en spécialiste de l'opinion que Philippe Guibert a commis cette enquête, ce document. Il remonte aux sources de la crise d'incarnation, avec une mondialisation économique et une révolution numérique qui alimente le remords de l'histoire, comme elles nourrissent le regret du grand homme. Et beaucoup réclament la fin du monarque républicain sans s'apercevoir qu'elle est déjà accomplie. Le président n'a plus rien d'un monarque et l'esprit républicain s'est évanoui. plus de prestige, de caractère, d'idéal, place à un gestionnaire dynamique ou peut-être au populiste démagogique, ce que certains espèrent. Place plutôt à la gouvernance, ce qu'on voit bien, place à la gouvernance autoritaire et minoritaire en fonction des voix des électeurs qui votent, qui vont en minorité, mais qui votent donc, ça représente des voix minoritaires pour mettre en place une gouvernance. Il nous faudra pourtant inventer un chef nouveau en France, qu'il soit héritier du passé, on est fier de notre passé, et projeté dans l'avenir. Voici peut-être des idées dans ce livre. Voici des idées de grandeur en déclin. Et comment les leçons d'hier peuvent préparer les sursauts de demain. Voilà pour le premier livre qui s'appelle « Gulliver enchaîné » de Philippe Guibert au Cerf, un livre providentiel peut-être, qui devrait changer quand même beaucoup de choses en France dans les années qui viennent. L'humain, le deuxième livre, est très plus important encore. L'humain intitulé « L'humain au centre du monde » sous la direction de Daniel Salvatore Schiffer et 33 auteurs majeurs. Tous ont élaboré cet ouvrage collectif à partir d'une date effroyable. Il débute par une constatation faite par de grands écrivains. J'en prends un, parce que je le connais depuis longtemps, il s'appelle André Suarez, et qui disait le 16 mars 1923, attention, un danger mortel menace la civilisation et l'Europe. Le règne sans contrepoids du marchand et du troc, de l'argent sans cœur ni pensée, de l'automate et de la machine. Ce monstre anonyme est partout dans le temps où nous sommes, qui est incertain, un temps incertain, entre la nuit d'un monde mourant et le jour d'un monde à naître, dont l'aube n'a pas encore lui. Les ténèbres sont en travail, les douloureuses ténèbres, ce que l'on peut constater. Et c'est à la France d'être assez humaine pour sauver la conscience de l'Europe et le royaume universel de l'esprit. On en est là. Eh bien, face à un malaise dans la civilisation, autre titre, un grand titre d'un livre qui s'appelait « Malaise, un malaise dans la civilisation » de Freud, eh bien, l'humanité est mise en question. Et aux dangereuses dérives qui nous menacent, que l'on peut voir à côté de nous, face à nous, les dérives, qu'elles soient idéologiques, politiques, scientifiques, technologiques, épistémologiques, idéologiques, posant sur le monde actuel la globalisation, l'intelligence artificielle, on en parle, hein, le transhumanisme, le wokisme, le cancel culture, l'invasion des jugements soi-disant normatifs et des règles moralisatrices, la régression des libertés individuelles, l'individualisme narcissique, pas que dans les romans policiers, la dictature du numérique, la surpuissance des réseaux sociaux, on en voit encore les résultats, le cyberharcèlement, l'écriture inclusive, la menace nucléaire avec la guerre, crise énergétique, la banalisation du mal, le racisme, la xénophobie, et j'en passe, car les attaques sont nombreuses. Les dangers aussi sont nombreux. Bref, l'insidieuse et progression et progressive, l'insidieuse et progressive érosion, sinon évaporation, de l'humain, hein, il s'agit bien de l'humain, dans toute son anthropologie complexité, terme cher à Edgar Morin qui s'exprime dans ce livre-là, au profit d'un monde trop souvent aliéné, directif et réducteur, tel un totalitarisme qui s'ignore ou ne dit pas son nom, face à une pensée de plus en plus manichéenne, sournoise et silencieuse, mais d'autant plus dangereuse dans sa redoutable efficacité pour la liberté de l'esprit, la liberté de parole et la liberté de penser. Sinon, de conscience. Alors que faire face à toutes ces attaques? Que faire face aux défis qui pèsent sur notre civilisation? Que faire face aux nouvelles formes de barbarie? Car elles se présentent à nous. Il est urgent de remettre l'humain, au centre du monde, répond dans cet ouvrage 33 auteurs majeurs, dont voici la liste, elle est longue, mais je vous la dis quand même parce que tous ont voulu intervenir. Luc-Olivier Dalgance, Marc Alpozzo, Dominique Baquet, Florence Belkacem, Tahar Ben Jeloun, Marie Jobonnet, Nora Bussigny, Jean-Philippe Domecq, Samira El Hayashi, Luc Ferry, le grand Luc Ferry, René Frégosi, Elsa Godard, François Casby, Rachel Kahn, Arnaud Klarsfeld, Michel Maffei Soli, Jean-Marie Montali, là j'en parlerai encore, Bruno Moisan, Véronique Naoum-Grappe, Françoise Nord, Céline Pina, Robert Redeker, oui, important personnage, Pierre-Yves Rougeron, Stéphane Rosès, Romaric Sangar, Boualem Salem, Jacques Souchet, Pierre-André Taguieff, oui, le grand Taguieff, Patrick Vassor, Alain Vircondelet aussi, que je connais bien, Olivier Weber et Jean-Claude Silberstein. Voilà, tous ces personnages, il est nécessaire, vital même, de convoquer l'héritage de l'humanisme pour faire face aux enjeux de notre temps, C'est le pari que font ces auteurs de ce livre, appelés à faire autorité. Voilà pourquoi il faut le lire, l'humain au centre du monde. Cet ouvrage collectif, le principe de responsabilité, une nouvelle éthique doit être mise en place, basée sur le double respect de l'homme et de la nature. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre, l'homme et la nature, pour la civilisation technologique, pour arriver par la pensée à un discours critique. Mais justement, on en arrive à cette pensée douloureuse que c'est la fin de l'homme. C'est le choc des civilisations qui nous a menacés, qui se présente à nous. Et même certains iront jusqu'à l'abolition de l'âme et l'hémorragie de la philosophie. Alors, que ferons-nous lorsque l'âme aura disparu? Et les livres des philosophes et de leur enseignement dans les universités et les lycées disparaîtront aussi. Alors voilà, nous devons aboutir à une critique raisonnée du transhumanisme par Luc Ferry. Le transhumanisme, un courant de plus en plus puissant, soutenu par les géants du web, à l'instar de Google, est doté de centres de recherche au financement quasi illimité. Et puis l'IA dont on parle et les imprimantes en 3D, on déforme les choses. Emmanuel Lévinas a été convoqué et convoqué dans cet ouvrage avec son livre « Humanisme de l'autre homme ». On va donc pour une autre éthique. Fin de l'humanisme de la métaphysique, décrétant la mort de l'homme, c'est-à-dire la mort de Dieu, ou même mort à Dieu, idée apocalyptique, car il s'agit d'une crise de l'esprit qui revient sur l'humanisme de la Renaissance. C'était tellement bien que cette époque de la Renaissance. C'est ce que Lévinas appelle de ses vœux, c'est-à-dire l'instauration d'une morale à hauteur d'homme, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, d'une nouvelle éthique, éthique de l'humanisme, en appel à la vigilance et à la prise en compte du réel dans sa totalité. Alors donc, de l'IA au wokisme, totalitarisme idéologique, terrorisme intellectuel, on en voit autour de nous, pour en revenir à humanisme et renaissance, et remettre l'homme au centre du monde. Tel est ainsi à l'heure où le monde aujourd'hui vit d'importantes et profondes, sinon historiques, mutations, où les valeurs de notre culture, comme le principe de notre civilisation, sont en grand danger. L'objet premier, donc, de cet ouvrage, aussi essentiel qu'incontournable de cet ouvrage collectif, l'objet premier, c'est bien l'esprit de ce livre choral que de repenser l'humanisme et de remettre l'humain au centre du monde avec 33 auteurs que je vous ai cités, de différentes générations, des plus jeunes aux plus anciens, de provenances différentes, mais toujours guidées par un même esprit de concorde. Il y a des juifs, des chrétiens, des arabo-musulmans, des laïcs, des agnostiques, des athées. Chacun d'entre eux, quoique toujours dans une synthétique et cohérente mise en perspective au regard des autres contributions, y analyse, et c'est ça qui est extraordinaire, y analyse individuellement par rapport à son domaine de prédilection, sa sphère de compétences, son éventail de connaissances ou son champ de savoir à l'intérieur des sciences humaines et disciplines artistiques même. Donc je vous ai dit au départ qu'une date avait cristallisé tous les intervenants de ce travail collectif, l'humain au centre du monde, c'est la suite sanglante de l'attentat perpétré le 7 octobre 2023. Là, c'était vraiment un acte de barbarie par le terrorisme politico-islamiste du Hamas, je dis bien le Hamas, à l'encontre des Juifs comme de l'État d'Israël. C'est vraiment à lire pour entrer en dialogue avec chacun des intervenants. Je ne peux donc détailler, j'ai parlé de Luc Ferry, mais je voulais quand même vous signaler deux rubriques ou deux chroniques de Jean-Marie Montali, qui est écrivain, essayiste, grand reporter et réalisateur. C'est vrai que ces deux premiers critiques, chroniques, la première, antisémitisme, et relève l'antisémitisme, le poison de l'indifférence. Le deuxième, qui fait suite, silence, on viole. Il n'ajoute pas, mais c'est moi qui l'ajoute, des Juifs, car dans ce combat sanglant, il y a eu des morts, des victimes, des blessés, mais aussi des viols des femmes. Voilà. Et c'est rédigé comme un coup de poing. Voilà pourquoi, en le lisant, vous ne pourrez pas ne pas être soulevé par cette indifférence de la plupart, parce que ce sont des Juifs, alors on a dit, certains même se sont tournés vers les Palestiniens. Mais c'est un acte de guerre de 385 pages, voilà. Et donc, un ouvrage à lire pour une renaissance spirituelle, pour sauver l'humain au centre du monde. Voilà. Alors j'ai dit après ça que j'allais lire un livre, un roman noir du grand Peter May. Le grand Peter May, Tempête sur Kinloven. Kinloven. Tempête sur Kinloven de Peter May qui est sorti au Rouergue Noir. Son personnage, Cameron Brody, est un flic de Glasgow, un veuf solitaire qui, comme tout le monde, endure les effets du changement climatique. On en parle du changement climatique. Mais Peter May se projette aussi en Écosse, au nord de l'Écosse, avec la perturbation des courants océaniques, l'Écosse est devenue, en ce milieu du XXIe siècle, une terre quasi polaire. Voilà. Chez nous, on parle plutôt d'inondations et de sécheresses. quand son chef lui demande de se rendre dans les Highlands, où le corps d'un journaliste d'investigation a été retrouvé dans un tunnel de glace, il est figé dans ce tunnel de glace. Brody décide, donc son personnage, son flic de Glasgow, Brody décide d'accepter cette improbable mission. C'est que son médecin vient de lui annoncer qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Et c'est malheureusement vrai. On le découvre à la fin de l'histoire. Et qu'à les à Kinloch Leven est son unique chance de revoir Addie, sa fille unique, qui a disparu, avec laquelle il n'a plus aucun contact depuis 10 ans. Mais c'est justement Addie qui a découvert la dépouille de Charles Junger. Alors, dans ce passionnant roman qui dépeint un futur proche, terriblement vraisemblable, Peter May nous immerge dans des paysages aussi grandioses qu'inquiétants. Quel dangereux secret recèlent ces montagnes lointaines et inhospitalières qui ont conduit au meurtre d'un homme atteint d'étranges lésions pulmonaires. C'est ce que l'on découvre. Et quel dialogue difficile, un père et une fille séparés par des années d'incompréhension vont-ils parvenir à nouer, parce qu'ils vont se retrouver. Et les retrouvailles sont difficiles au départ, surtout par rapport à sa fille, à Addie, qui en veut à son père. Il y avait un malentendu. Avec une authentique maestria, Peter May nous emporte dans ce roman, fort nous emporte, nous lecteurs, dans un maelstrom de rebondissements et d'émotions. Oui, c'est vraiment superbe. Et on fait une pause musicale. J'ai choisi la trompette, celle de Romain Leleu, que je vous ai déjà fait entendre dans cette émission au Café Littéraire, avec une musique sur une musique de Michel Legrand. Michel Legrand, ce grand musicien. Thank you. Voilà, une bien belle musique. Vous l'avez peut-être reconnue de Michel Legrand. C'était la musique des Demoiselles de Rochefort. Du film, les Demoiselles de Rochefort. Alors, je parle d'un autre roman noir, mais qui est plus fantaisiste par rapport à celui de Peter May, qui était plus grave. Ça s'appelle « Les règles de l'art ». C'est de M.C. Beton. C'est paru, ça vient de paraître aux éditions Albin Michel, que je remercie parce que ce sont eux qui m'ont fait parvenir ce roman. Avec un policier qui s'appelle Hamish Macbeth dans le rôle central et que l'on adore vite, ça je peux vous le dire. Rares sont les nouveaux venus qui s'attardent dans le petit village de Loch Dub, en Écosse. Rapidement chassés par l'ennui, le mauvais temps et la curiosité mal placée des voisins. Pourtant, l'artiste Effie Garrard fait exception à la règle. Elle semble même se plaire dans ce patelin, parce que c'est bien, vous dire ce que c'est, un patelin, avec des bergers, avec un peu trop tranquille. Jusqu'au jour où on retrouve son corps sans vie dans la montagne. On ne sait même pas où est sa voiture. Hamish, ben, le policier, s'empare, il est le seul d'ailleurs, au départ, s'empare aussitôt de l'enquête. Car des questions se posent. Effie Garrard, l'artiste, se serait-elle suicidée en ingurgitant de l'antigel? Et lorsqu'on apprend qu'une dispute avait éclaté peu avant entre elle et Jacques Fleming, un peintre, un réel peintre celui-là, dont elle s'était éprise au point de le harceler pour qu'il l'épouse. Alors la question, c'est s'agit-il donc d'un suicide ou d'un assassinat? Eh bien, c'est à Hamish, sorte de Hercule Poirot à la sauce écossaise, de découvrir si cette mort cache autre chose qu'une peine de cœur. Voilà pourquoi vous aurez du plaisir, un divertissement à lire ce livre de M.C. Beton, Hamish Macbeth, dans les règles de l'art, avec un danser un peu amusant en couverture qui vient de paraître chez Albin Michel. Grâce à son style, M.C. Macbeth entraîne le lecteur et nous aussi, on est entraînés dans des aventures totalement déjantées, avec en prime le charme des loques, voilà, des Highlanders mystérieux et des châteaux hantés. À lire, c'est aussi savoureux qu'un single malt. Voilà, ceux qui aiment boire le whisky, un single malt, eh bien, vous pourrez le faire en dégustant ce livre. Voilà. Alors, là, j'aborde un ouvrage pour moi fabuleux. Ça s'appelle « Le dernier flirt d'Henri Matisse » par le frère dominicain Philippe Verdun qui est paru au Cerf. Le Cerf, c'est pour moi un éditeur important. C'est l'histoire magnifique, jamais encore racontée, d'une amitié, je dis bien amitié, improbable et merveilleuse. La rencontre qu'attendait Matisse pour récapituler en un lieu plein de lumière et de paix, tout le génie de sa création. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire son chef-d'œuvre, la chapelle du Rosaire de Vence. Pourquoi, comment ? C'est ce que l'on découvre dans ce roman, Le dernier flirt d'Henri Matisse, du frère dominicain Philippe Verdun. Tout commence dans la grisaille du couvre-feu. Le 8 janvier 1941. Nous sommes effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale, au tout début, lorsque Matisse a dû quitter rapidement Paris face à l'arrivée des Allemands vers la capitale et sauver des œuvres qu'il a pu plaquer, cacher, dissimuler, mais il n'empêche qu'il est obligé de descendre dans le midi de la France. Mais comme Matisse souffre sans intermittence depuis des semaines de l'abdomen, il est plié, il est obligé de remonter à Lyon, dans une clinique, la clinique du Parc, où il sera opéré même deux fois, à deux reprises, et soigné par des religieuses infirmières, des dominicaines. On a d'ailleurs un aperçu sur ces religieuses dominicaine qui soignait très très bien les malades ou les victimes. Et même certaines ont fait de la résistance et ont eu des distinctions à la fin de la guerre, parce que certaines ont été déportées. Donc on retrouve tout ça dans cet ouvrage, dans ce roman. Matisse va se remettre grâce à ses opérations, mais très très lentement, entouré de Lydia, sa secrétaire, et de Marguerite, sa fille indomptable, qui ont fait en sorte qu'il est venu dans cette clinique lyonnaise du Parc, celle du Parc. Alors les sœurs, je vous ai dit, elles apparaissent comme des anges qui réconfortent les victimes. On se croirait presque au jardin des oliviers. Et Matisse en a bien conscience, alors qu'il songe même à la mort pour atténuer ses souffrances. Voilà la résurrection inespéré qui se fait, il se sent beaucoup mieux et ça change tout pour lui. Il ne sera plus comme avant, un grand peintre plutôt communiste sur les bords, je dirais, mais il reste malheureux, enfin, il reste handicapé et il doit aller en convalescence. Il ne peut pas tout de suite repartir en convalescence sur l'autre rive, au Grand Hôtel, sur l'autre rive. Et puis, il pourra, peu à peu après, retourner à Nice pour retrouver le soleil, son atelier, ses plantes et ses oiseaux, qui sont importantes à ses yeux et qui figure dans ses peintures. Malheureusement, la maladie va le rattraper. Les poumons, la fièvre le fait trembler. Il ne peut plus tenir le pinceau, plus peindre. C'est alors que Lydia, sa secrétaire, va embaucher une jeune fille de 21 ans qui s'appelle Monique Bourgeois, et qui deviendra sœur Jacques-Marie. Oui, un nom masculin parce que les dominicaines qui deviennent sœurs changent de nom et prennent un nom masculin, Jacques et Marie. Une future infirmière religieuse, pétulante, voilà ce qui la caractérise et qui redonne le goût de vivre à Matisse et qui lui inspira son chef-d'œuvre, La Chapelle de Vence. Le grand peintre, qui est au sommet de sa gloire, va se consacrer pendant 3 ans à cette chapelle, à la restauration de cette chapelle. De 1948 à 1951, le peintre va donc se consacrer à la réalisation des vitraux, des fresques, des chasubles même, du clocher, du bénitier. Et tout son entourage, ses compagnons, je dirais, qui sont Aragon et Picasso, qui ne comprennent plus le grand peintre, qui s'inquiètent. Comment cette jeune dominicaine a-t-elle pu ensorceler le vieux maître ? Eh bien, c'est ce que raconte ce texte fabuleux, cette complicité profonde entre le peintre et cette religieuse qui faisait aussi de l'art, pleine d'entrain et de joie. C'est une sorte de flirt, d'où le titre de ce roman, car c'est comme si nous nous jetions des fleurs à la figure, des roses, pas n'importe quelle fleur, bien sûr, des roses effeuillées, disait Henri Matisse. Et c'est lui qui a décidé, depuis cette sorte de résurrection, de faire ce qu'il veut. Et c'est bien que son chef-d'œuvre qu'il a réalisé vers la fin de sa vie, La Chapelle du Rosaire de Vence. Voilà. Vous saurez tout en lisant ce livre que je trouve, moi je vous l'ai dit, fabuleux. Et je dois maintenant vous parler d'un livre aussi différent, mais très important pour moi. Ça s'appelle « Suite orphique » de François Cheng, de l'Académie française, qui vient de paraître chez Gallimard. Le grand François Cheng, un poète que je connais depuis longtemps, heureusement. Dans cette écriture, on peut lire la rencontre ou le dialogue, il y a les deux, de deux passions du poète François Cheng. La première, l'une, est pour une forme poétique particulière. Ça s'appelle le quatrain. Et dans cette suite orphique, il y a 99 quatrains. Genre majeur dans l'antique tradition chinoise, qu'il a contribué à faire connaître et aimer. En voici comme en épigraphe à cette lecture un poème, un quatrain, tiré du livre Un hymne à la vie. Ce quatrain dit: nous avons bu tant de rosée, en échange de notre sang, que la terre, 100 fois brûlée, nous sait gré d'être vivants. Voilà, n'est-ce pas que c'est beau? Alors l'autre passion de François Cheng, c'est pour Orphée. Orphée, figure mythique du poète, dans la culture gréco-latine, puis occidentale, associée très tôt à une autre figure, celle du Christ qu'il a rencontré. C'est dans ce courant poétique et spirituel qui va de Dante à Rilke et ses sonnets à Orphée, en passant par Novalis, Hölderlin, Shelley, Nerval et Mallarmé. Mallarmé pour qui l'explication orphique de la terre est le seul devoir du poète. Donc c'est à ces deux passions que l'on doit situer l'œuvre et la pensée de François Schenck, ce qui lui confère une place unique dans la poésie contemporaine. De plus, François Schenck a souhaité placer sa suite orphique, qui est un peu son testament, sous l'invocation de la figure maternelle, acte de piété filiale, qui est aussi amour-passion, où se mêlent joie et chagrin, bonheur et douleur. Une nostalgie, retour au temps passé révolu, et pourtant toujours présent au sein d'un flux de vie où vit à jamais le visage maternel. Vous voyez comme c'est beau, cette suite orphique, c'est magnifique. 99 quatrains, donc, disais-je, abordant quatre thèmes, aux vivants et aux morts, le premier, à la vie d'ici, au divin, le troisième thème, et le dixième, le quatrième, en créant au sein de la voix, chose importante pour François Schenck. Étonnante synthèse qui met le mythe grec, Orphée, en regard du taoïsme, et du christianisme. Pour lui, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Cette parole ouverte et généreuse est pour le lecteur comme l'émouvante confidence d'un penseur-poète qui n'a de cesse de célébrer la vie. On revient à la vie sacrée. Alors voici quelques exemples d'autres de ces quatrains merveilleux que possède ce livre Suite orphique. Le premier, le vol d'aigle, nous répète que non clos est le monde. Tout lieu du sol s'ouvre au ciel. Ce qui divise ici rassemble là-bas. S'inspirer, c'est se laisser aspirer. N'est-ce pas que c'est beau? Alors, comme j'ai parlé du premier thème, aux vivants et aux morts, je vous cite le premier quatrain. N'oublions pas nos morts, ni nos propres. Notre propre mort, c'est le devoir mourir qui nous pousse vers l'élan. De l'indicible au chant, notre voix est orphique, transmuant les absents en d'ardentes présences. N'est-ce pas que c'est beau? Et celui, je suis le divin, je suis parce que tu es, tu avec une majuscule, tu es, et par toi, je suis, toi, majuscule, je suis. Moi là, tu es venu d'être, hors d'amour, hors l'amour. Je répète, je suis parce que tu es. Tu es par toi, je suis. Moi là, tu es tenu d'être. Hors l'amour, quelle autre issue ? Un autre poème qui suit le premier. Nous n'avons que toi comme répondant. Et tu trouves tes répondants en nous. Nous nous répondons par-delà le temps. Toutes les âmes aimantes s'avèrent aimantantes. Et puis je voulais terminer avec la beauté. La beauté, mais il y en a d'autres. Hein. Je ne peux pas tous les lire. À vous de rechercher ce livre en librairie. La beauté est une rencontre. Toute présence sera par une autre présence révélée. D'un même élan, regard aimant, figure aimée, d'un seul tenant, vent d'appel, feuille de résonance. N'est-ce pas ? C'est vraiment merveilleux. Et d'élégance et de style. Voilà, donc, à s'inspirer, François Schenck, suite orphique, 99 quatrains qui vont vous enchanter et qui vient de paraître chez Gallimard. Après un tel livre, il est peut-être difficile de parler d'autre chose, et pourtant, bon, il me reste encore un petit peu de temps. Donc, je voulais aborder un livre tout à fait original, L'armoire qui vient de paraître, que j'ai reçu aussi de chez Albin Michel, L'armoire de vie au pluriel de Anne Brochet. Un auteur qui avait produit des choses, mais dans le passé. Anne Brochet. Elle se regarde devant des miroirs. Face à la glace centrale, en ramenant vers moi les deux miroirs latéraux, je découvre mes profils simultanément. Je les observe souvent, surtout le mercredi après-midi, quand je m'ennuie. Je constate que j'ai un côté doux et l'autre plus sévère. Et c'est aussi les impressions que je renvoie aux autres. Oui, c'est ça qui est très bien dans ce roman, L'armoire des vies, c'est que on se sent concerné, on l'observe dans le miroir, les effets de miroir, mais aussi on se sent concerné par cette histoire, par cette vie. Donc, voilà, je constate, j'ai un côté doux, et l'autre plus sévère, c'est aussi l'impression que je renvoie aux autres. Gentil aussi bien que revêche. Anne Brochet, née à Amiens en 1966, est comédienne, écrivaine et réalisatrice. Et dans ce nouveau récit, elle se met justement en scène. Voilà pourquoi on est touché. Surveillant aussi sa beauté depuis toute petite dans ce miroir, dans ces miroirs. Elle nous raconte ici l'histoire des armoires de toilette qui ont jalonné sa vie, une vie de bohème, il faut bien le dire. Elle redécompose le lieu et les gestes, tente de se souvenir de son visage à chaque étape du miroir. C'est le récit d'une vie banale, mais unique, mais qu'elle partage avec nous. Avec ses tiroirs secrets, ses perspectives infinies, ses angles morts, ces jeux de dédoublement, ces intérieurs de portes et tout le foutraque des émotions que l'on ne sait pas où ranger. Mais aussi, elle parle dans ce livre de la présence de ses différents maris et la naissance de ses deux chers enfants, un garçon et une fille. Que du bonheur, voilà. L'Armoire des vies, sa sixième publication, est tout à fait, je trouve, originale, intime et aussi tournée vers les autres par ces effets de miroir qui nous renvoient son visage, sa destinée, mais aussi les nôtres. Un divertissement bien mené. Alors peut-être aussi j'avais prévu, le voilà, un livre de poche même, à 7,70 pour ceux qui veulent économiser quelques sous, qui ne veulent pas prendre les autres grands livres. Mais c'est bien aussi. Va où le vent te berce. C'est de Sophie Talmen. Je vous avais parlé de Sophie Talmen le mois dernier et des Cœurs silencieux qui était paru aux éditions Albin Michel. Là, en livre de poche, elle écrit un autre roman, une nouveauté, mais qui était déjà paru chez Albin Michel, « Va où le vent te berce », qui est sorti en livre de poche. Je trouve, c'est pour ça que j'aime Sophie Talmen, elle a un don, celui de décrire le quotidien émouvant de l'hôpital. Pour les cœurs silencieux, si vous avez lu, c'était le service de neurologie que j'ai fréquenté jadis, dans ma jeunesse. Ici, dans ce roman, « Va où le vent te berce », elle intègre par une association de bénévoles à l'hôpital, surtout auprès des enfants malades. Voilà, il y avait l'hôpital des enfants malades qui n'existe plus, ça a été repris sous un autre nom. Elle intègre des relations quasi indispensables par cette association avec les enfants malades et les soignants et les bénévoles. Alors pourquoi est-ce que viennent ces bénévoles? Il y en a qui font les clowns, qui amusent les enfants. Et son personnage central, c'est Gabriel, un grand bonhomme. Gabriel qui, pour remplacer quelqu'un d'autre, va devenir berceur de bébés la nuit, lorsque les parents sont repartis chez eux et que les enfants pleurent encore. Ils ont besoin d'être bercés, d'être consolés. De quoi, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que Gabriel a un don qu'il redécouvre en prenant dans sa grande main et son bras un bébé, un enfant, et le berce. Il va arriver à l'adoucir, à calmer ses pleurs, et il va s'endormir. Alors, les gens seront tout surpris de le voir le lendemain matin, encore avec un bébé dans les bras. Donc, on redécouvre ce don de bercer, lecteur et lui. Et il y a un deuxième personnage, Anna, jeune médecin, qui est médecin, voilà. Elle est meurtrie parce que c'est le deuxième personnage de cette histoire. Elle a eu des difficultés et elle s'apprête à mettre au monde seule son premier enfant. Alors que celui-ci venait, n'était pas à l'hôpital pour le mettre au monde. Donc ça, j'ai fait avant, j'étais seul. Et chacun de ces, on le découvre, et chacun de ces deux blessés a son propre combat à mener. Je n'ai pas parlé, mais il y a de la boxe dans l'air, parce que le grand Gabriel, il a une rancœur, et c'est à coups de poing dans un punching ball qu'il se donne. Il ne veut pas faire de la boxe pour aller sur un combat, mais il se donne là pour évacuer cette rage qui est en lui. Et donc, chacun à sa manière, un propre combat à mener, un fossé les sépare, et pourtant, leur rencontre va tout changer. Et si, ensemble, ils apprenaient à se reconstruire, à vaincre leurs peurs et affronter les fantômes du passé? Et c'est bien ce qui va se mettre en place dans ce nouveau récit de Sophie Talmen. C'est pour moi vraiment un très beau roman. Et voilà, je termine sur cette page, ce livre de Sophie Talmen, « Va où le vent te berce », une nouveauté parue donc en livre de poche, qui dit que notre cœur, il s'agit bien de cœur, s'emballe pour ces romans qui font du bien. Et c'est vrai que, voilà, je vous dis bonne lecture et au mois prochain, si vous le voulez bien, avec nous. Au revoir.